le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Sable sur Radio Canu. Donc aujourd'hui, une émission qui va être consacrée à la situation tunisienne, avec moi Thomas Bruniot d'Atacrone pour animer cette émission, et avec notre invité Jamel Charghi du Front Populaire Tunisien. Donc, bonjour.
Bonjour.
Donc, on va commencer par les présentations, notamment cette structure, le Front Populaire Tunisien.
Oui, bonjour. Le Front Populaire Tunisien, en fait, c'est un ensemble de différents partis, en majorité de gauche, qui a été créé en octobre 2012, donc il y a de cela quelques mois. Et il est composé de 12 partis et de l'association Attaque Tunisie. Et d'indépendants aussi, tous ceux qui sont des militants syndicalistes, autonomes, indépendants, qui peuvent aussi rentrer dans le Front Populaire. Personnellement, donc, moi, je suis le porte-parole d'un des partis, c'est le Parti des Patriotes Démocrates Unis, celui de feu notre camarade Choukri Belaïd, qui a été assassiné le 6 février. Ici, en France, donc, je suis le porte-parole de ce parti. Et il y a d'autres partis, le Parti des Travailleurs, des partis panarabes, nationalistes, qui sont dans le Front Populaire.
Et donc, il s'est créé avec quel objectif ?
Il s'est créé, ce Front, dans l'objectif unique, c'est poursuivre le processus révolutionnaire jusqu'à la réalisation des objectifs de la Révolution, qui sont donc la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011. Elle s'est faite sur des bases sociales essentiellement, c'est une révolution citoyenne et sociale. Et les slogans étaient, les objectifs étaient le travail, la liberté et la dignité. Et le Front Populaire, sa plateforme, elle est basée là-dessus. Donc, on continue le processus jusqu'à la réalisation de ses objectifs, avec tout ce qu'il comporte, donc, de valeurs sociales, démocratiques, dans ses slogans.
Il me semble que durant l'année 2011, il y avait eu des tentatives déjà de fédérer un front uni à gauche. Et il y a eu des rencontres, on m'avait parlé, je crois, notamment d'un grand rassemblement qui avait eu lieu, je ne sais plus à quel endroit d'ailleurs, dans Tunis, au printemps 2011, qui avait justement fédéré pas mal d'énergie, puis après c'était retombé, après le soufflet était un petit peu retombé. Qu'est-ce qui fait que ça a fini par s'agréger en 2012, mais ça a quand même pris 18 mois en définitive, quoi.
Et tout à fait. En fait, en 2011, juste après la révolution, les partis donc qui étaient dans la clandestinité se sont créés. Ils sont devenus des partis. Ils ont eu leur visa. Donc, et une première tentative de rassemblement de la gauche radicale, donc patriote démocrate, et la gauche sociale démocrate, a eu lieu avec pas de succès du tout. Donc, un grand échec. Parce que le code électoral à l'époque, c'était avant les élections, la coalition allait se faire sur des bases strictement électorales, et chacun des partis, à mon avis, s'est vu un peu plus grand que la réalité, étant donné qu'ils étaient dans la clandestinité. Donc, et les élections d'octobre donc ont démontré la réalité de chaque parti. On était des 0, et ça fait que il y a une nécessité d'unir ces idées qui traversent tous les partis, unifier la base, les militants, et repartir avec un projet pour les Tunisiens clair et présenté par un seul front.
Donc, ce qui est bien, c'est que vous parlez pas la langue de bois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la gifle qui a été que les organisations de gauche ont ramassé aux élections, qui finalement a permis de voir aboutir ce Front Populaire.
C'est en grande partie c'est ça. C'est la réalité. De toute façon, chaque travail politique après 50 années de dictature où les partis d'opposition étaient complètement absents, il fallait se mesurer, savoir se connaître un petit peu ses forces et ses faiblesses, et voilà. Donc on se présente maintenant sous forme d'un franc, et 3 mois après sa constitution, les instituts de sondage nous accréditent de 14-15%, alors qu'on était tous réunis ensemble, on a un groupe de 5 députés à la constituante. Donc.
Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être un front assez large au niveau idéologique, tout en étant vraiment à gauche, enfin en étant fortement ancré à gauche, mais on a à la fois donc du coup le Parti des Travailleurs qui lui est plutôt comment on va dire marxiste, ou enfin en tout cas d'inspiration, je veux dire, historiquement un parti marxiste, et puis d'autres partis, je sais pas si il y a peut-être aussi des trotskistes, non, si je me
trompe. Il y a la Ligue des Travailleurs qui est trotskiste, effectivement. Ouais. Mm-hmm. Il y a toutes les
Puis Attaque, comme vous disiez,
et Attaque, oui.
Le RAID, donc du coup ça fait un panel assez large, quoi.
C'est assez large, en ce sens même qu'il y a des partis à inspiration, par exemple nationaliste, nasserien, pan-arabe, qui eux ne sont pas, donc qui croient à la nation arabe, et sont ensemble pour donc défendre l'intérêt social d'une partie de cette nation qui est la Tunisie. Et effectivement, donc ce n'est pas un front de gauche, c'est un front populaire qui est animé par des partis de gauche, c'est le moteur, et autour il y a beaucoup d'autres partis qui vont vers le centre gauche dans ce front.
Et quels sont vos modes d'action? Vous êtes mis d'accord sur un programme?
Nos modes d'action, donc déjà il y a deux axes. Il y a un axe d'organisation où il a fallu créer des coordinations sur tout le territoire. Ici en France aussi, il y a 5 coordinations Front Populaire, dont une Rhône-Alpes, j'en fais partie. Et puis sur la plateforme donc que j'ai citée au début, il y a un plan, donc on est plutôt, comme on dit en arabe, avec les Zawel, et donc Zawel, c'est les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à clôturer le mois, avec les chômeurs, avec les diplômés qui trouvent pas de travail, avec les paysans qui n'ont rien du tout, avec les petits commerçants qui sont endettés jusqu'au bout, avec le 80% du peuple tunisien, et on veut leur rendre la dignité et la liberté. Donc, mais il y a effectivement un programme qui, sur la dette, par exemple, nous on a une position qu'on est sur l'endettement de la Tunisie, on refuse cet endettement. Le gouvernement actuel, il est allé lever des prêts du Fonds monétaire international en acceptant les coûts de coupe, donc que tout le monde connaît. Le Fonds monétaire international, quand il rentre dans un pays, c'est pour mieux l'étouffer. Nous, on est contre ça. Donc, le remboursement de la dette de l'ancien dictateur et des deux dictatures anciennes. Donc, on veut un moratoire, et on a un programme pour ne pas les rembourser tout de suite, pour les transformer en investissement, et surtout le développement régional, et la région qui sépare la Tunisie de l'Algérie, c'est-à-dire l'ouest tunisien qui est complètement déshérité.
Quand on disait qu'il pouvait y avoir des groupes de différentes pensées, là on voit quand même que la convergence, elle s'est vraiment faite sur les problèmes socio-économiques qui étaient aussi à la base d'ailleurs de la révolution.
Exactement. Exactement.
Et moi, la question que j'avais envie de vous poser, qui est un peu provocatrice, donc ne le prenez pas mal, c'est: est-ce que le Front Populaire, quelle est sa base sociale, sa base électorale? On se demandait, moi je me demande un petit peu si c'est pas très tunisois, et quelle est sa réalité, en gros, quelle est la réalité de sa base sociale au sud du pays. Alors, peut-être que vous allez me dire qu'au niveau de la zone minière, tout ce qui est GAFSA, je suppose qu'il y a, vous avez sûrement, là pour le coup, une base sociale qui a une réalité, parmi les mineurs, dans les usines de phosphate, etc. Mais pour ce qui est de toute cette partie, cette grande partie sud de la Tunisie, qui fait que finalement, peut-être qu'en France, on a du mal à comprendre aujourd'hui l'évolution politique, l'élection d'Ennahda, et puis même l'élection de Marzouki, qui en fait, que tout le monde disait complètement fou, aux abois. Et puis finalement, son parti, il fait quand même, je sais plus combien, mais peut-être 20 ou 30% des l'année dernière, quoi, ou un peu moins, peut-être.
Un peu moins, je ne veux pas revenir sur les chiffres, mais la base.
Ça se voulait que vous nous éclairiez un peu sur votre base sociale, parce que nous, on a tendance à voir la Tunisie, en fait, essentiellement à travers le prisme de la gauche tunisienne, en l'occurrence vous, et puis de Tunis, quoi.
Très urbain, en fait.
Ouais, voilà. Il y a une réalité. Bon, la population tunisienne, on fait 11 millions d'habitants. Tunis et banlieue, ils en font 2,5. Donc, ça fait quand même un grand pourcentage. Pour ce qui est de la base, je rappelle juste les derniers événements de Célienne, hein, où la police a tiré à la chevrotine. C'est le camarade Choukri Belaïd qui est membre fondateur du Front Populaire. Donc, il a été accusé de payer les gens pour qu'il aille manifester. En fait, la manifestation s'est faite sur des bases sociales et avec des slogans du Front Populaire. Ce sont des slogans du peuple, en fait, de toutes les manifestations. Le travail, la dignité et la liberté, c'est ce que réclame tout le monde. Donc, dans ces régions-là, l'Ouest tunisien déshérité, paysans, cet ouest-là, le bassin minier où il y a plus d'ouvriers, mais l'autre qui est complètement agricole, le Front Populaire, ce qui peut étonner beaucoup de monde, en installant ces coordinations, les meetings, il y a vraiment des salles pleines. Donc, pour l'instant, le travail se fait sous forme de cercles de discussion avec les gens, ou sur le lieu de travail, dans les cafés, et le Front Populaire, il a dépassé toutes les estimations de ce qu'on peut faire maintenant. Il est dépassé même par la structure de son organisation, étant donné qu'elle est jeune. Donc, et je pense que à Tunis, il y aurait moins d'engouement vers le Front Populaire, étant donné que tous les autres partis étaient présents, mais dans ces régions-là, le Front Populaire est bien implanté.
Donc vous avez vraiment réussi à être présent activement sur tout le territoire.
Nous-mêmes, nous sommes sincèrement étonnés de cette implantation et on en est très content. Donc on essaie maintenant d'aller plus dans une organisation de front organisée sous forme de parti pour que les responsables locaux puissent émerger et que ces idées-là ne soient pas juste un phénomène de mode, mais s'implantent dans le langage quotidien et dans le travail quotidien dans ces régions-là.
Ça signifie que vous parvenez à dépasser le scepticisme que la population voue à l'égard de la politique et des institutions politiques et surtout des partis politiques, parce que vous en avez pas mal pâti, mais pas vous seulement d'ailleurs, je pense beaucoup de partis tunisiens, quoi. Donc ce que vous dites qu'il y a des rassemblements, pas seulement à Tunis, mais compris dans des villes secondaires, dans le pays, dans les zones rurales. Donc vous arrivez à aller au-delà de ce discrédit qui touche toute la politique institutionnelle, quoi.
Je crois que non seulement on va au-delà, mais on donne goût aux gens de faire la politique, ouais. Parce que le Front Populaire invite les gens à faire eux-mêmes la politique. Et y a pas, chaque fois qu'on va discuter avec les gens, ils disent « c'est qui votre chef ?» On dit « notre chef, c'est vous ». Donc, trouvez vos chefs, émancipons-nous et avançons vers ce qu'on veut mettre en place. Et parce que les médias et peut-être le prisme médiatique, ce qui sort de la Tunisie, il y a une bipolarisation de la vie politique entre la troïka dominée par le parti islamiste et ses réserves salafistes et en même temps les anciens, ceux qui avaient gouverné, les libéraux de droite, pour ne pas nommer Nidatoun, ainsi de suite. Donc il y a une bipolarité entre ces deux chefs et il essaie de personnifier la direction, donc c'est monsieur contre monsieur, tel contre tel. Le Front Populaire arrive, c'est un front, c'est quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de partis, ils parlent tous, ils vont tous sur une plateforme, donc personne n'a un intérêt à ce que ça casse, au contraire, et les gens ont trouvé que c'est quelque part, ce sont leurs slogans qui sont véhiculés par le front, et ils les défendent. Donc voilà, c'est une autre façon de faire la politique, comme les partis de gauche espèrent faire.
Et puis j'imagine qu'il y a aussi l'enjeu localement de créer des futures personnes qui pourraient être élues à des élections locales.
C'est le but. C'est vraiment l'implantation des gens localement, faire émerger des groupes, parce que pour les élections locales, c'est des élections à liste, essayer de faire des alliances avec des gens sur place, et tout ça fait que, effectivement, notre but, c'est ça.
Thank you. الحكومة يا الحكومة كيفور عليك الشعب يا الحكومة يا الحكومة كيفور عليك الشعب يا الحكومة والدور 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 ما تحكمش حتى حكومة
qui a été composé à l'occasion de la révolution tunisienne, et puis on pourrait dire même par la révolution tunisienne, puisqu'en fait c'est un artiste qui est engagé, quoi, qui était engagé dans la révolution, et les morceaux qu'on écoutera, enfin j'imagine qu'on va faire une autre pause musicale, donc le morceau suivant sera issu du même disque. Moi j'ai un titre en anglais, quoi, The Songs of Tunisian Revolution, donc bref.
On peut traduire en français.
Alors, comme c'est un disque en fait que j'ai ramené du Forum Social Mondial, ça peut être l'occasion, mais très rapidement, parce que c'est pas le sujet de l'émission, il faut qu'on creuse la discussion qu'il y avait avant la pause, mais on peut peut-être dire juste deux mots du Forum Social, pour dire que c'est un rassemblement donc, qui a eu lieu en fin mars, dont on a relativement peu entendu parler en France, paraît-il, puisqu'avec un stand de copains d'attaque, on était là-bas.
Ici, on en a très peu parlé.
Ouais. Et en fait, moi, je voulais juste dire, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui ont déjà eu quelques échos, mais c'est un rassemblement qui s'est très bien passé, parce qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y a eu beaucoup de brassage musical, politique, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'effervescence. Donc déjà, il y a cet aspect-là, hein, le fait que ça ait rassemblé quand même un certain nombre de personnes et que ça, qu'il y avait une certaine, il y avait cette effervescence-là. Et le deuxième critère, qui pour moi est encore plus important, c'est que surtout il y avait beaucoup de Tunisiens. Et ça, c'était carrément essentiel. Il y avait bien sûr pas mal de globetrotteurs du militantisme international, et puis pas mal en fait de Français, un peu d'Italiens. Mais surtout, ce qui était vraiment très très frappant, c'était la présence tunisienne, et en particulier des jeunes et des femmes. Voilà, avec pas mal, enfin plusieurs associations féministes. Et une grosse présence étudiante, je pense assez politisée, mais peut-être pas que politisée. Il y avait peut-être aussi d'ailleurs des gens qui ont profité du fait que ça se passait chez eux pour venir discuter, rencontrer des militants qui venaient de tous les pays. Donc je pense que c'était sûrement une grande chance, en tout cas pour cette jeunesse-là. Et peut-être une dernière chose au sujet du FSM, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu d'écho dans la presse française. Nous, on a quand même vu quelques échos dans la presse tunisienne et francophone, on va dire. Et en particulier dans un quotidien qui s'appelle La Presse, et je crois qu'il est un quotidien, toi tu dois le connaître, de droite peut-être. Moi j'ai du mal à le situer, mais en tout cas c'est sûrement pas un quotidien d'extrême gauche. Centriste, on va dire, quoi.
C'est l'organe du gouvernement.
Ah bon, d'accord, c'est encore pire. Moi, je voyais un espèce de
dirigé par un journaliste, Sofian Benfarhat, qui a une certaine forme de liberté après le 14. D'ailleurs, il est récemment, c'est lui qui écrit l'éditorial de La Presse. Il lui donne une certaine forme d'objectivité.
En tout cas, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu des éditos et des articles très favorables. Oui, favorable au FSM, pas forcément favorable aux idées, c'est-à-dire que c'était pas des articles idéologiques, mais qui saluaient l'événement comme un lieu d'expression. Alors bon, après, c'est peut-être de la politique politicienne, si tu dis que c'est un organe du gouvernement, puisque c'est vrai que le FSM a été protégé, on en parlait en off, quoi, dans le studio. Le Forum Social Mondial a été protégé par le gouvernement Ennahda, quelque part, puisqu'il n'y a pas eu d'affrontement.
Il n'y a vraiment pas eu de difficulté d'organisation,
Non, ils étaient, paraît-il, moi j'ai eu un témoignage un peu de quelqu'un qui connaît bien le comité d'organisation, qui me disait qu'il y a deux mois, ils étaient totalement à la rue, c'est-à-dire que c'était vraiment, ils étaient aux abois, et qu'eux ils sont retombés sur leurs pattes comme le chat qui tombe du cinquième étage, quoi. Ils sont vraiment miraculeusement retombés sur leurs pattes, et ça s'est extrêmement bien passé. L'armée a donné
exactement. Je dois juste
a fait une réfection du campus. Ouais.
Je dois juste préciser que juste avant fin mars, donc quasiment deux mois avant, même pas un mois et demi, la police en Tunisie, la scène, on a assisté à l'assassinat de Choukri Belaïd. Et le rapport de force de la rue était inversé. Donc, comme par miracle, les fauteurs de troubles se sont retrouvés un petit peu à l'écart. Après, il y a les 40 jours après l'enterrement de Choukri Belaïd, où là, quasiment, donc, la rue elle a été libérée. Et le FSM a profité certainement de cela, et le parti et le gouvernement en place n'a pas voulu, à mon sens, rajouter de l'huile sur le feu, et il a laissé faire. Mais bon, juste après, il y a une reprise en main qui est en train d'être faite.
Donc, on accueille notre deuxième invité.
Donc, Bonjour, c'est Fatih Dassi, donc du Mouvement du Peuple. Je suis désolé pour mon retard.
Eh bien, on va vous laisser vous présenter quand même. Donc, et présenter surtout ce qu'est le Mouvement du Peuple.
Voilà, donc je suis Fatih Dassi, donc le représentant du Mouvement du Peuple pour la France Sud. Donc, le Mouvement du Peuple est un mouvement de tendance progressiste. Donc, c'est un mouvement qui s'inscrit un peu dans l'histoire de la Tunisie, dans les luttes de l'histoire de la Tunisie. C'est un mouvement qui vient de s'allier donc au Front Populaire, donc qui regroupe plusieurs partis. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous refusons de l'être. Nous avons donc des députés au sein de l'Assemblée constituante. Nous avons un projet qui est un projet progressiste, qui est très proche du projet que le Front Populaire présente. Nous étions bien sûr dans les luttes de notre peuple durant les dernières années, pas les 23 de Ben Ali, mais aussi sur la période de Bourguiba, aussi bien dans les luttes étudiantes que dans les luttes syndicales, que dans les luttes populaires. Aujourd'hui, on continue à être sur ce front de la réalisation des objectifs de la révolution.
D'accord. Donc, juste pour replacer l'émission, on a parlé au début de l'émission de justement du Front populaire, de ses composantes, de ses objectifs et de ses modes d'action. Un petit mot sur le forum social, donc que nous a fait Thomas. Et tu parlais d'une réussite, mais il semble quand même que dès que le forum a fermé ses portes, il y a des choses moins ouvertes et moins sympathiques qui se sont passées.
Sur le plan sécuritaire, mais les liens qui ont été tissés entre le milieu associatif, politique et avec les individus, ça, personne ne peut le retirer. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Et tout à l'heure, Thomas, vous disiez que il y avait une ambiance quasiment de kermesse à un certain moment, mais il y a eu beaucoup d'ateliers aussi de travail où les gens ont échangé, ont expliqué sur beaucoup de thèmes, et que c'est vrai pour la Tunisie, se retrouver les jeunes, les femmes, les partis de gauche, les syndicalistes, tous ces gens-là ont accueilli, ils ont soutenu le forum parce que c'est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup de choses. À partir de là, donc une fois que le contact est établi, il ne sera jamais rompu. Maintenant, est-ce qu'il y aura des difficultés pour mettre en place les actions, c'est sur la durée, mais bon, que ça va être jugé, comme on est quand même dans une phase. Le seul point positif de la révolution tunisienne jusque-là, c'est que la porte de la démocratie, de la liberté d'expression n'est pas encore fermée. Donc nous, on se bat pour la maintenir ouverte et pour la garder grande ouverte. Et ça, c'est au prix de beaucoup de travail, de militantisme et d'action au quotidien. Au quotidien. Donc, il y a toujours, et vraiment, on est dans la phase où il faut tout le temps être vigilant pour que cette porte ne se ferme pas. Donc, voilà. Donc, tant qu'elle est ouverte, on a la liberté d'expression qui reste quand même, elle existe, et on parle de beaucoup de choses.
Mais est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour l'état des libertés en Tunisie? Vous disiez qu'après après l'assassinat de Choukri Belaïd, il y a eu peut-être un peu un desserrement de l'étau, parce que j'imagine que l'indignation était si forte. Il semble qu'il y a eu vraiment une vague d'indignation qui a beaucoup, voilà, qui a porté quand même, en tout cas, qui a déclenché des manifestations, enfin, etc. Donc là, le gouvernement, ou en tout cas même ceux qui ont fait cet assassinat, ont peut-être été obligés de reculer un peu. Donc il y a eu cette période, donc voilà, okay, qui a peut-être été favorable, comme vous disiez, à l'organisation du FSA, mais maintenant, une fois que le soufflet est retombé,
maintenant,
est-ce que vous êtes inquiet pour la suite?
Ce qui se passe en Tunisie, ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, et maintenant, aujourd'hui, sur le terrain, est extrêmement inquiétant et très, très grave. D'un côté, il y a soi-disant des élus, à part les élus, les quelques élus dont mon ami et camarade vient de parler, de l'opposition, qui essayent de mettre leur grain de sable pour élaborer une constitution qui soit progressiste. Et de l'autre côté, il y a des gens qui font perdre un temps précieux à la Tunisie. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le terrain, il y a des camps d'entraînement de terroristes. Il y a l'armée tunisienne est ciblée, ne serait-ce qu'il y a 2 jours. Il y a des endroits dans une région, quand même le fief de la révolution, Kasserine. La ville de Kasserine, c'est elle qui a tenu bon et c'est elle qui a contribué largement à la chute de la dictature le 14 janvier. Eh ben, maintenant, il y a une région montagneuse dans cette ville où il y a des camps de concentration, où l'armée tunisienne, il y a des soldats, ils sont tombés sur des mines, et pas que des mines antipersonnelles, même des mines anti-chars. Et tout ça a été fait. C'est une région, donc une zone frontalière entre la Tunisie et l'Algérie. Tout ça a été fait. On dirait que la frontière est devenue voilà. Le passoir où tout le monde peut, parce que pour faire entrer les mines, pour faire les installer, pour s'entraîner, et aujourd'hui on a des divisions de l'armée qui tirent avec de l'arme lourde pour essayer de déloger ces gens-là, et le gouvernement ne fait, soit il fait rien, ou il fait sous la pression de la rue. Donc la situation est extrêmement grave. On est passé par la circulation des armes, on a dit que c'était, la Tunisie est devenue juste un lieu de passage. Les armes se retrouvent quasiment dans toutes les grandes villes. Il y a des caches d'armes qui sont là. Les salafistes djihadistes sont toujours là. On reçoit des prédicateurs, ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, il y a un prédicateur égyptien qui vient et il prend l'excision des femmes, le mariage, la polygamie, tout ce qu'on veut. C'est devenu du tout et du n'importe quoi. Et ces gens-là, là où c'est grave, ils sont reçus soit par des élus, soit ils passent par le salon d'honneur à l'aéroport. Et c'est très très grave ce qui se passe. Et le peuple, donc ce que vous avez vu au FSM, ce que nous avons vu à l'enterrement de notre camarade Chokri Belaïd, ils ont divisé, ils sont arrivés à diviser la Tunisie en deux. Une partie qui soutient ces gens salafistes, djihadistes et qui sont très violents, ils ne sont pas démocrates du tout. Et l'autre partie que vous avez vue, vous, et cette partie-là, elle espère une Tunisie démocratique, moderne, progressiste et qui avance. Voilà la situation de la Tunisie. Donc c'est très très grave et la constitution n'est pas encore là, la date des élections n'est pas là, les partis au gouvernement, le Troïka, un président quasiment fou qui dit tout et son contraire. On l'a entendu défendre le Qatar quand un a attaqué le roi du Qatar, et il n'a pas défendu l'armée tunisienne quand ils se sont fait tirer dessus, alors qu'il est le chef des armées, et on est dans cette situation-là. Voilà, donc le Front Populaire, il met tout ça sur la table, il a un projet, il avance, et on veut sortir de cette situation d'instabilité rapidement, parce que le désordre, la terreur et la violence ne servent que les djihadistes et les salafistes.
Moi, je voudrais peut-être apporter un petit bémol à ce que dit Jamel, même si je suis d'accord sur l'essentiel. Il y avait, sur l'arrivée de ce prédicateur égyptien hier, il y avait quelque chose qui était très symbolique et qui représente peut-être la résistance du peuple tunisien. Justement, il devait passer à l'aéroport par le salon d'honneur. Et ce salon d'honneur est théoriquement réservé aux officiels. Ce monsieur n'a rien d'officiel, c'est juste un prédicateur. Mais comme ceux qui nous gouvernent le considèrent comme étant quelqu'un de très important, ils voulaient le faire passer. Et ce sont des femmes tunisiennes qui ont résisté au sein de l'aéroport et qui ont occupé le salon d'honneur et qui lui ont interdit de rentrer. Donc c'est peut-être l'acte est limité, mais il représente ce qui se passe dans le pays. Il y a un bras de fer qui se passe entre les forces réactionnaires et les forces progressistes, au sens global du terme. Les femmes, alors qu'on veut les enterrer, les femmes sortent la tête de l'eau, les femmes sont tout simplement une sorte de force de frappe aujourd'hui, refusent tout simplement qu'on les ramène plusieurs siècles en arrière, et sont une partie totale et intégrante, tout en réclamant leurs propres droits de femme, réclament aussi les droits du peuple de manière globale. Je voudrais revenir, peut-être je n'étais pas là pour l'histoire du forum social. Nous, on n'est pas du tout d'accord sur cette analyse, c'est que ça a été une réussite. Ce n'était pas un échec non plus, ça a été en demi-teinte. Autant on s'est félicité d'apprendre que le forum social allait se passer en Tunisie. Autant c'était pour nous un symbole qui était très très fort, puisqu'avant on n'organisait aucune action, aucun événement en lien avec les libertés en Tunisie, et savoir que le forum social venait en Tunisie, c'était très symbolique. Pour moi personnellement, j'ai été renvoyé du campus universitaire de Tunis, et revoir cette liberté, toute cette liberté au campus, c'était très important. Ça, c'était peut-être le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a été surpris de certaines présences. Il y a deux présences qui ont indisposé le peuple tunisien. Premièrement, des organisations sionistes qui étaient présentes. Et ça, c'était inadmissible pour nous. Nous ne l'avons pas avalé. Deuxièmement, ceux qui représentent la pseudo-révolution syrienne, qui est une révolution qui est totalement fomentée par des régimes réactionnaires comme le régime du Qatar, comme le régime d'Arabie Saoudite, et soutenu par les Américains et par le régime islamiste de Turquie. Les voir, ces gens-là, aussi présents dans le forum social, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de schizophrénie. D'un côté, on est pour la liberté du peuple, et d'un autre côté, on ramène des forces d'occupation, on ramène des forces réactionnaires, et c'est là où on a considéré que le forum social n'était pas totalement une réussite, même s'il y a une part de réussite dedans.
Enfin là, moi je pense que vous boudez votre plaisir, quoi. Parce que globalement, le FSM s'est très bien passé. Il y a eu des noyautages, ça c'est clair. Je pense même qu'il y en a eu d'autres. Il y a failli y avoir la grande scène, du dernier rassemblement dans un grand amphi, une bagarre entre les Marocains et les Sahraouis. Mmh. Donc c'est sûr qu'il y a eu des causes qui se seront un peu percutées. Hein, et ok, effectivement, moi j'ai entendu parler sans trop le voir, en effet, hein, cette question des Syriens. Je sais bien qu'il y avait des militants pro-Assad.
C'était pas eux, non, c'était plutôt
pas eux qui nous posaient problème.
On m'a dit qu'il y avait aussi des pro-Assad, hein, oui, qu'il y avait eu des pro-régimes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand on est sur le campus et qu'on participe pour FSM, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc en effet, il ne faut pas tomber dans l'angélisme, donc vous avez tout à fait raison de le dire. Comme paraît-il, il y avait aussi d'ailleurs des militants plus ou moins énarda, voire des salafistes déguisés. Enfin, en tout cas, il y avait des stands.
Un FSM, c'est ouvert aussi. Les militants peuvent y aller.
C'est ouvert, voilà. Sauf que quand on va sur le site du FSM, on trouve un État qui s'appelle Israël, il n'y a pas un État qui s'appelle la Palestine. Donc, alors, pour nous, c'est une position prise.
Alors, est-ce qu'on peut pas justement nuancer cette question de la présence des sionistes, même si vous avez raison de le dire, par le fait qu'il y a une visibilité quand même très importante de la cause palestinienne qui a été vraiment,
c'est certain,
qui a pu s'exprimer.
C'est la cause du peuple tunisien. Ouais, pour nous, c'est notre cause.
On l'a senti pas. Oui. Que la cause palestinienne était bien portée d'ailleurs par la jeunesse tunisienne.
Le fait que ces deux organisations, et essentiellement les soi-disant révolutionnaires syriens, qui étaient là soutenus par le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie.
Ah oui, j'avais pas entendu en effet ce que vous disiez.
C'était ces gens-là a été extrêmement très mal perçu par les Tunisiens, parce que le gouvernement de la Troïka et le président tunisien, un petit peu à la limite échappé d'un asile psychiatrique, et je mesure les mots.
Tout à fait.
C'était le premier pays qui a rompu les relations avec la Syrie, donc il n'y a aucun représentant syrien. Le parti Ennahda et les Tunisiens sont les premiers pourvoyeurs de révoltés, d'excités qui sont maintenant en Syrie. Ils vont pour tuer les Syriens. C'est des terroristes. Et moi j'ai pas peur de le dire et je le dis. D'une de deux, avant la rupture des relations avec la Syrie, il y avait toute une communauté tunisienne. Elle est piégée maintenant. Ils ne sont ni terroristes ni c'est des étudiants, des familles, des gens qui travaillaient, et il n'y a pas de représentation, ils sont arrêtés, ils sont dans un no man's land, et personne ne sait ce qu'ils font faire. Donc, non seulement ils pourrissent la situation en Syrie, et je suis pour la révolution citoyenne syrienne, mais cette révolution citoyenne syrienne, c'est pas celle soutenue par le Qatar, l'Arabie Saoudite, et armée par ces gens-là, et que même la France, à un certain moment, il était question de leur fournir des armes. Donc, ils sont revenus dessus, c'est une très bonne chose, mais la révolte d'un peuple ne se fait pas de cette façon-là. Et c'est vrai, la présence de ces gens-là, il y a eu un clash entre eux et les Tunisiens, qui ne soutiennent pas du tout les terroristes tunisiens qui vont se battre en Syrie. Un jour ou un autre, ils reviendront et ils reproduiront ce qui a été fait par les terroristes algériens en Afghanistan, et on ne veut pas revivre ce qu'a vécu l'Algérie pendant 10 ans. Longtemps.
Mais à combien vous estimez aujourd'hui ces troupes, ces militants salafistes? Parce qu'en Tunisie, en effet, ce sont des gens qui alimentent la révolution syrienne, le mauvais camp, on va dire, de la révolution syrienne. Donc ça, je l'ai entendu dire, en effet, à Tunis. Donc peut-être plusieurs milliers de personnes qui sont là-bas, du coup.
Il n'y a qu'un mauvais camp dans la révolution syrienne. Il n'y a qu'un mauvais camp.
Parce que le bon camp a été étouffé, disons.
Non, le mouvement a été au départ des manifestations populaires pour des réclamations sociales, que certains se sont accaparés en sortant les armes parce qu'il n'y avait pas d'armes au départ. Certains se sont accaparés parce qu'ils étaient préparés, en sortant des drapeaux qui sont les drapeaux de la colonisation, en sortant des armes qui n'existaient pas. Donc, le renversement du régime syrien, moi je ne suis pas du tout partisan du régime syrien, mais le renversement du régime syrien était quelque chose de préparé d'avance. Et aujourd'hui, le peuple n'a plus sa place, quelque part, pour ses réclamations. Et ceux qui prétendent être le peuple sont tout simplement soit des agents de la Turquie, c'est ce qu'on appelle l'armée libre, et qui est en train de revenir dans l'armée syrienne, soit ces excités, les barbus, qui sont financés tout simplement par le Qatar et par l'Arabie Saoudite, etc. Il n'y a pas d'autre révolution aujourd'hui en Syrie.
Et alors, pour revenir à la Tunisie, est-ce que ce ne sont pas simplement quelques milliers d'excités, pour reprendre votre terme, sur une population de 10 millions d'habitants aujourd'hui? Ils sont très très minoritaires.
Les djihadistes tunisiens.
Oui, je parle des djihadistes tunisiens.
Ils sont minoritaires, mais avec beaucoup de moyens.
Ils ont énormément de moyens.
C'est là l'inquiétude, c'est ce que vous dites.
Ils ont énormément de moyens, ils ont les armes, et ils rentrent dans une guerre que l'armée, et je précise, l'armée tunisienne, depuis la chute et la fuite du dictateur, elle est en état d'urgence et elle a quitté ses casernes. Donc il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de récupération. Ils sont dans la rue, ils font un travail de police. La police a été retirée, et c'est eux qui font un travail de police, même à la limite de circulation parfois. Donc en cas de crise, comme ce qui se passe actuellement dans à l'ouest tunisien, à la montagne, l'armée, à mon sens, est sous-équipée pour faire face à ces gens-là qui sont extrêmement mobiles. Et on sait très très bien que les caches d'armes dans les villes, et ils vont tuer les civils, l'armée n'est pas faite pour cette guerre civile-là. Donc l'Algérie a mis 10 ans pour arrêter effectivement quelques dizaines aussi. Hein. La Tunisie ne mettra pas moins. Donc c'est extrêmement grave du fait qu'il soit organisé, financé, l'argent wahhabite coule à flot, ces prédicateurs qui arrivent, ce ne sont pas les mendiants égyptiens, hein, c'est celui qui est arrivé hier, c'est un milliardaire en francs suisses, et tous ces gens-là, donc quand ils viennent avec leur chéquier, donc et ils viennent pour islamiser la Tunisie, pour casser l'islam sunnite, soufite, malikite tunisien, et installer leur islam à eux, qui est un islam de terreur, de tuerie, de barbarie et d'excision des femmes. Voilà, donc c'est grave, même s'il n'y a que 2000, je pense qu'ils doivent être autour de 15 000 salafistes et apprentis salafistes.
الثوار ولدي كراه من الثوار
ما نوعدتك يا لحنينا
ما نوعدتك يا لحنينا
وان شاء الله نعيشوا احرار
وان شاء الله نعيشوا احرار
يا لمي ما يا لمي ما
يا لمي ما يا لمي ما
ولدي كراه من الثوار
ولدي كراه من الثوار
ما نوعدتك يا لحنينا
ما نوعدتك يا لحنينا
وإن شاء الله نعيشوا أحرار
وإن شاء الله نعيشوا أحرار
لو ضربوني بالسلاح
لو ضربوني بالسلاح
لنحب سياح ولنواح
لنحب سياح ولنواح
خرج خويا للكفاح
خرج خويا للكفاح
حب في قبر نكون مرتاح
نحب في قبر نكون مرتاح
نحلف باسم الشهداء
نحلف باسم الشهداء
نسلي ماتوا بالكرتوش
نسلي ماتوا بالكرتوش
والأحرار لي قالوا لا
والأحرار لي قالوا لا
الثوار الما يخافوش
الثوار الما يخافوش
تحيا اللي جن شعبية
تحيا اللي جن شعبية
اللحمة لبلاد هذية
اللحمة لبلاد هذية
ناس القصبة والاعتصام
ناس القصبة والاعتصام
نهدي لكم أحلى سلام
نهدي لكم أحلى سلام
يمي ما ادعي في صلاتك
يمي ما ادعي في صلاتك
للعالي كفر دعواتك
للعالي كفر دعواتك
موتوا الناس اللي بعدك
موتوا الناس اللي بعدك
يا ثورة برخص الأسواب
يا ثورة برخص الأسواب
تونسنا يا تونسنا
تونسنا يا تونسنا
تونسنا بلاد الثوار
تونسنا بلاد الثوار
تونسنا تنادي وتسيح
تونسنا تنادي وتسيح
ما تخلوش الثورة تريح
ما تخلوش الثورة تريح
يا تونسي شد صحيح
يا تونسي شد صحيح
كالجبل ما يهزك ريح
كالجبل ما يهزك ريح
من بن زرت البنجردان
من بن زرت البنجردان
لازمنا نعيش في امان
لازمنا نعيش في امان
لا فينا خاين ولا جبان
لا فينا خاين ولا جبان
لا عميل الامريكان
لا عميل الامريكان
يا خضرة مقامك عالي
يا خضرة مقامك عالي
يا عزيزاتي ما في بالي
يا عزيزاتي ما في بالي
نشكي لك حالي وحوالي
نشكي لك حالي وحوالي
بالتجمع والحكومة بالتجمع والحكومة هما اللي سكنوا في قصور
هما اللي سكنوا في قصور
هما اللي دفنونا في قبور
هما اللي دفنونا في قبور
هما اللي سجنوا الأبطال
هما اللي سجنوا الأبطال
هما اللي حجروا البطال
هما اللي حجروا البطال
هما اللي سجنوا الأبطال
هما اللي سجنوا الأبطال
هما اللي حجروا البطال
هما اللي حجروا البطال
هما قالوا الناس سوفاج
هما قالوا الناس سوفاج
واحنا قلنا لهم ديجاج
واحنا قلنا لهم ديجاج واحنا قلنا
Nous sommes toujours sur l'émission Le Grain de Sable à Radio Canu. Donc, je rappelle nos invités, Jamel Charghi du Front Populaire Tunisien et Fatih Dassi du Mouvement du Peuple. Au début de l'émission, on a parlé justement de la plateforme du Front Populaire et où la question la plus importante, c'est vraiment celle du travail et du niveau de vie qui était aussi un des fondements de début de la Révolution. Et aujourd'hui, la situation économique, est-ce qu'elle s'est améliorée?
Elle s'est empirée. La situation économique est catastrophique, aussi bien sur les signaux apparents de la population qui voit une inflation galopante, les gens n'arrivent plus, ce qui était les composantes alimentaires basiques et qui étaient à la portée du citoyen moyen ne le sont plus. Les gens voient leurs revenus stagner, mais voient des prix lâcher un marché comme on n'en fait pas, voient une économie qui est en train d'être donnée aux diktats du FMI, un taux d'endettement du pays qu'il va falloir plusieurs générations pour le payer. Il n'y a aucun plan, aucun investissement. Les gens ont fait la révolution pour l'emploi. Il n'y a aucun emploi. Ou alors, c'est de l'emploi selon le modèle de l'ancien régime. C'est-à-dire que sur l'année 2012, l'État a embauché 30 000 fonctionnaires. Sur les 30 000 fonctionnaires, 29 000 appartiennent, sont des gens du parti qui est au pouvoir, sont des gens de Nahda. Donc, on est exactement sous le... Il n'y a pas de création d'emploi. Les jeunesses ne trouvent aucun espoir. Les familles n'arrivent plus à subvenir aux besoins les plus élémentaires et les éléments macroéconomiques du pays sont tout simplement tout dans le rouge. Il n'y a on se classe sur tous les niveaux, sur nos universités on est passé après les universités de Somalie, sur nos formations on est déclassé, sur la situation, l'endettement, c'est peut-être la chose qui fait le plus peur parce qu'elle ne touche pas la situation aujourd'hui, mais le pays est en train de s'endetter sur plusieurs générations. Les richesses du pays, les richesses fondamentales, ce qui doit rester comme structurant, qui doit rester à l'appartenance au pays, est en train d'être vendu au Qatar à des prix défiant toute concurrence. Voilà la situation économique et les gens perdent espoir. On est arrivé, peut-être il y a un indicateur. Quand on parle avec les Tunisiens sur place, certains d'entre eux regrettent l'ancien régime, ce qui est très grave. Ce qui est très grave parce qu'on a fait la révolution contre un régime, on a évincé ce régime de dictature, de corruption, et on est arrivé à avoir quelque chose qui est pire, au point où ça donne envie de revenir en arrière. Et c'est peut-être l'élément, c'est pas le cas de tous les Tunisiens, mais un certain nombre le font malheureusement. Et c'est peut-être un indicateur des difficultés du Tunisien aujourd'hui, qui n'est plus dans le contexte politique, mais que dans le contexte de courir derrière son quotidien alimentaire, et je dis bien alimentaire.
Effectivement, ces difficultés, il faut qu'on ait plus à vouloir s'en sortir qu'à vraiment militer.
Oui. Et je ne sais pas si ce n'est pas volontairement fait. Par contre, on voit la richesse des gens qui sont au pouvoir qui augmente de façon exponentielle. Ils se doublent, ils refusent aux instituteurs une toute petite augmentation et en même temps ils doublent leurs primes.
Donc, pour ajouter à ce que disait mon camarade, la situation économique et le quotidien du Tunisien est devenu quasiment invivable. Il y a une paupérisation. Les chômeurs, les pauvres, ils n'existent pas alors que la révolution est faite pour eux et par eux, surtout par eux. La classe moyenne s'appauvrit. Il y a une nouvelle caste de personnel politique qui est sorti et ce sont des gens qui se servent, ils se répartissent sans foi ni loi, donc ils se servent dans les caisses de l'État. Les emprunts du Fonds monétaire international sont conditionnés par des mesures de rigueur, de restrictions et de coupures, donc dans l'offre sociale, dans l'aide sociale qui n'existait déjà pas. Donc, pour les gens qui n'avaient rien, maintenant, ils n'ont toujours absolument rien du tout. Et le Tunisien étant lui-même, il analyse très vite, mais schématiquement, il disait, avant, il y avait Ben Ali, sa famille, donc une dictature mafieuse qui gouvernait, le peuple était massacré et les islamistes étaient en fuite. Maintenant, on a les islamistes et leurs familles qui sont là, au pouvoir, le peuple est toujours massacré et Ben Ali est en fuite. Donc en fait, rien n'a changé, sauf que la différence entre Ben Ali et ces gens-là qui sont au pouvoir, c'était une dictature mafieuse. Maintenant, ils avancent vers une dictature culturelle islamiste dont l'islam n'a absolument rien à voir avec eux. ce sont vraiment des marchands. Ils vendent l'islam, tout ce qui a une valeur ajoutée, ils le vendent. Ils bradent les biens du pays. On a une usine de El Fouled, donc c'est le
métallurgie,
une très grande usine tunisienne, la seule. Hein, ils sont en train de la liquider, la donner à la aux Qataris pour les gisements de pétrole, les raffineries, toutes ces choses-là. Pareil, c'est la même chose. Donc ils sont en train de vendre la Tunisie en morceaux. Ils s'enrichissent et le peuple s'appauvrit de plus en plus. Et tout ça en l'absence d'une constitution, tout ça en l'absence de tout. Ils s'auto-contrôlent tout seul, hein, en l'absence même d'un projet, d'un avenir, d'un horizon à regarder devant. Ah, il y a rien. Ils étaient élus pour un an pour faire une constitution et sortir la Tunisie de cette situation-là, lui mettre une constitution nouvelle et on avance dans la démocratie. Ça fait un an et demi qu'ils sont là. Et la troisième version de la constitution qu'ils essayent de nous présenter, elle est toujours, mais vraiment, pas présentable du tout. Elle est, point de vue linguistique en arabe, elle est bourrée de fautes d'orthographe. Donc, ce qui est bizarre. Et aucun expert qui l'a fait, ce sont des gens qui se sont improvisés rédacteurs de constitution. Ils savent même pas écrire, ni rédiger, ni présenter un projet à la Tunisie.
Et la commission parallèle qui est formée de constitutionnalistes tunisiens et qui devait soutenir cette constitution, pour la plupart se sont retirés. Nous avons un constitutionnaliste très célèbre qui est Qais Saïd, qui a complètement démissionné. Il a dit, moi je ne peux pas, de par ma valeur d'académicien, je ne peux pas valider cette chose-là. C'est une honte. C'est l'incompétence totale. On va rentrer dans le livre du Guinness pour deux choses. Pour avoir eu dans le monde la constitution qui a coûté le plus cher et pour avoir la constitution la plus médiocre et qui est faite tout simplement sur mesure par rapport à des gens qui veulent gouverner le pays ad aeternam, tout simplement.
Et donc, il nous reste 3 minutes pour parler justement des perspectives, malgré...
Les perspectives, je vais peut-être commencer, je te laisser finir. Les perspectives, pour l'instant, donc nous, au Front Populaire, on demande vraiment, on est toujours dans la même demande. Il y a 3 choses. 1, il faut que cette situation de violence, d'agression et de sécurité soit réglée par un congrès, une convention nationale dans lesquelles tous les composants de la Tunisie participent pour mettre fin à la violence et éradiquer ça, et pour pouvoir avancer, préparer la Tunisie à des élections démocratiques, transparentes et surtout populaires. 2, il faut qu'il y ait des institutions, donc que la Constitution finisse son travail de rédaction d'une Constitution. D'ailleurs, il est prévu, si elle ne passe pas par un accord de 2/3 des constituants, il y aura un référendum et là, le peuple décidera. Donc, il faut qu'il y ait un projet définitif final qui soit présenté, discuté pour qu'on puisse en parler. Et la création de 3 commissions, la commission de la presse libre, parce que sans cette commission-là, il n'y aura pas de liberté et de garantie pour que les élections se passent normalement. La magistrature, la haute commission de la magistrature libre qui est en train d'être faite, et la commission électorale pour définir le corps électoral. On va voter comment? À la proportionnelle? On va voter à la liste nominative? On ne sait pas du tout comment ça va se passer, et surtout fixer une date d'élection. On espère qu'elle ne dépassera pas le mois de décembre.
Les perspectives, c'est aussi les perspectives politiques, et je pense que il y a un schéma qui est en train de se dessiner, qui est un schéma triangulaire, où nous avons d'un côté le parti Nahda et ses alliés, ceux qui gouvernent avec lui. On a le retour de l'ancien régime avec plusieurs petits partis et un ancien ministre qui est en train de se dessiner. Et puis un troisième groupe qui est en train de se former et qui est formé par l'ensemble des forces progressistes du pays. Après, ça va être le bras de fer entre ces 3-là.
C'est le Front Populaire.
Oui, c'est le Front Populaire.
Tu peux le dire.
J'en fais partie, alors. Donc, qui est en train de se dessiner, tout simplement. Et ça va être le bras de fer entre ces 3-là. Parce qu'il faut sortir de cette situation.
Ben, merci à vous.
En vous remerciant et en vous réinvitant, parce que je sens qu'on n'a vraiment pas eu le temps de dire tout ce qu'il y avait à dire. Et donc, à dans 15 jours.
Merci à vous.
D'accord, merci.
Au revoir.